Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Qu'ils soient publics, privés, généraux, technologiques, professionnels, au total 4300 lycées ont été évalués cette année par le ministère de l'Éducation nationale. Le tant attendu classement annuel des lycées, ou plutôt les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, viennent d'être rendus publics. Que signifient précisément ces données? Comment sont définis les meilleurs lycées? Et dans quelle mesure ces données influencent-elles le choix des parents? Bonjour Frédéric Rollet.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du SNES FSU. Il faut tout d'abord rappeler comment est élaboré ce classement. Comment est-il élaboré?
Alors, le ministère ne classe pas, en fait. C'est ensuite dans les médias qu'on retrouve un classement des établissements. Ce que donne le ministère à partir de 5 indicateurs, c'est ce qu'on va appeler l'action propre de chaque établissement. Le but, en principe, est de dire, en fonction de critères qui sont définis, l'âge des élèves, la sociologie, les résultats scolaires, etc., etc., on regarde, on suit une cohorte d'élèves depuis la seconde jusqu'à la première, jusqu'à la terminale, pardon, et on regarde alors à la fois ceux qui ont obtenu le baccalauréat et la mention ou non qu'ils ont pu obtenir, et on en déduit l'efficacité plus ou moins importante de l'action donc de chaque établissement.
Ce qui veut dire que finalement on sort de la culture du pourcentage unique, le taux de réussite au bac n'est plus en fait le seul indicateur que l'on prend, c'est ça Frédéric Rollet, l'évolution en fait de ce critère.
Alors l'idée effectivement c'est de dire ce serait trop facile de considérer uniquement le taux de réussite au baccalauréat, puisque si on regarde pas le parcours des élèves, on peut avoir entre la seconde et la terminale des réorientations, des abandons d'études, des élèves qui ne seraient pas présentés volontairement au baccalauréat pour ne pas faire chuter.
Ce qui n'arrive plus, parce que finalement quand on regarde ce classement, on se dit que peut-être dans certains établissements, allez par exemple les établissements privés, il y a peut-être des manœuvres, des tentatives de ne pas présenter tous les élèves et donc d'avoir des taux de réussite au bac de 100%.
Je pense que ça se fait toujours, c'est-à-dire qu'effectivement pour ne pas faire chuter un certain nombre de pourcentages, on peut proposer plutôt à un élève soit de redoubler, soit ne pas le présenter, donc ou le faire se présenter en candidat libre, ce qui arrive également.
Et oui, c'est ce qui évidemment modifie le pourcentage. Mais alors, du coup, est-ce que la façon dont aujourd'hui on a ce classement, parce que il est publié partout et il est surveillé par les familles, est-ce que ce classement est fiable, Frédéric Rollet?
C'est le problème, si vous voulez, que la DEP. Alors la DEP, c'est un organisme statistique du ministère, donc indépendant, qui publie une quantité d'études, d'ailleurs très très bien sur différents sujets. Mais nous, ce que nous critiquons, c'est le côté rendu public de ces indicateurs qui fait qu'on aboutit dans la presse à des classements. Il s'agit pas de dire on veut cacher quoi que ce soit, mais il faut savoir que la réalité est beaucoup plus complexe. D'abord, quand on compare des établissements, on compare des choses qui n'ont pas forcément comparables. L'offre de formation n'est pas la même, vous n'avez pas les mêmes enseignements d'exploration, les mêmes options, les mêmes formations dans tel ou tel lycée. Donc, il faudrait vraiment déjà regarder ce qui est comparable. Ensuite, quand on regarde l'inspection générale, je me souviens, avait fait il y a 4 ans, 5 ans, un rapport en montrant que les établissements qui étaient en haut du palmarès, l'année suivante, ne l'étaient plus. Il n'y avait pas eu de changement notable, ni des équipes pédagogiques, ni de la sociologie des publics accueillis. Donc, vous voyez, c'est pas très fiable. Ce qui aurait pu être intéressant, ce qui fait dans d'autres pays, hein, d'ailleurs en Finlande, c'est l'idée qu'on donne aux équipes pédagogiques un certain nombre de renseignements sur ce qui se passe dans leur établissement, qui vise à améliorer normalement les pratiques. Tandis que là, on a abouti assez vite à l'idée d'un marché qui peut... Enfin, je pense que si j'avais un conseil à donner aux parents d'élèves, c'est...
Donnez-leur des conseils, ils en ont besoin, Frédéric Rollet.
Laissez quand même vos jeunes choisir en fonction des spécialités, parce qu'en plus, alors maintenant, tout va être compliqué, parce que...
Mais alors, qu'est-ce que ça va changer? Parce qu'il faut rappeler en un mot, Frédéric Rollet, que le bac va changer.
Le bac va changer, l'architecture du lycée va changer. Donc, de toute façon, là, je ne sais pas bien comment on pourra comparer, puisque on va avoir...
On aura toujours le taux de réussite au bac.
Oui, mais un bac qui sera de moins en moins national, puisqu'on a le plus gros pourcentage des épreuves qui vont se dérouler à l'intérieur de l'établissement maintenant. Donc c'est ce qu'on critique d'ailleurs, parce qu'on considère que de ce fait, on va avoir une étiquette, j'ai passé mon bac machin dans tel endroit et non pas dans tel lycée plus prestigieux. Donc là, ça va être de toute façon, ça va rendre encore moins fiables les comparaisons. Mais quand on regarde, si vous voulez... certaines études sociologiques ou en sciences d'éducation, on voit que des jeunes qu'on a par exemple mis dans un lycée qui est assez loin de chez eux ou avec un public complètement différent de celui auquel ils étaient habitués notamment au collège, ça peut provoquer des phénomènes à la fois de stress et de fait de difficultés scolaires. Donc laissons le jeune en même temps dans l'établissement.
C'est un vœu pieux, hein, parce que en attendant ces classements en fait. Ils agissent évidemment sur les familles qui vont du coup se battre pour être dans les meilleurs lycées, renforçant parfois encore le caractère sélectif des établissements. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe un peu partout. Est-ce que vous pensez possible de le combattre? Est-ce qu'il y aurait des manières, Frédéric Crollet, vous qui êtes secrétaire général du SNES-FSU, d'aller à l'encontre de ce mouvement?
On travaille beaucoup les questions de mixité sociale, parce que je crois que là aussi, il faut combattre un certain nombre d'idées reçues. Quand on a dans un public qui est davantage mixte, ça profite à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un peu, on en tient un peu compte dans les indicateurs de l'ADEP. Ils regardent quand dans un établissement il y a une proportion forte d'enfants issus de ce qu'on appelle les CSP+, donc cadres supérieurs, profession libérale, enseignants, etc. Ça a un effet positif sur les enfants des catégories dites défavorisées, inactifs, ouvriers,
s'il y a de la mixité sociale.
Et ça ne pénalise pas les autres. Donc il faut vraiment, je crois, se dire que tout le monde y gagne quand on a justement un public scolaire qui est davantage mixte et que ça ne va pas pénaliser les très bons élèves.
Merci beaucoup Frédéric Crollet. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du SNES FSU.